Les nuits de France Culture, 1h, 6h du matin. Comment s'aimer en temps de guerre ? Ce fut une exposition à Paris, ce fut un documentaire signé Anaïs Quien et Charlotte Roux, proposé dans la Fabrique de l'Histoire le 9 octobre 2007. En voici une nouvelle diffusion dans les nuits de France Culture.
Crazy world, anything can happen. Kiss me. Kiss me as if it were the last time.
Je me suis montré bravo sur le quai de la gare quand t'es parti. C'est que dans ces heures graves, il faut que la femme soit forte aussi. Pour autant j'avais bien de la peine, et quand le train a démarré, je n'avais plus de sang dans les veines, mais j'ai crâné pour ne pas pleurer.
Henry, will you repeat after me?
I, Henry,
take thee, Catherine,
to be my wedded wife.
Selon le saint commandement de Dieu.
Selon le saint commandement de Dieu.
Jusqu'à ce que l'amour nous sépare.
Jusqu'à ce que l'amour nous sépare.
Et sur cela.
Et sur cela.
Je te donne ma foi.
Je te donne ma foi.
Du courage. Elle a ta photo sur son cœur jour et nuit. Mon chéri.
Amour, guerre et sexualité.
Il nous a semblé qu'on pouvait faire une démonstration que la sexualité n'est pas mise de côté dans un temps exceptionnel qui est celui de la guerre, mais qu'elle est présente et elle est même omniprésente car les populations entraînées dans la guerre continue à vivre, donc à s'aimer, donc à avoir des désirs et donc à avoir une sexualité pas forcément épanouie, mais en tout cas une sexualité.
Comment s'aime-t-on en temps de guerre? Comment la sexualité surgit-elle et comment est-elle perçue, représentée, lorsque la violence des combats ne peut être ignorée? Les historiens Daniel Vollmann, Fabrice Virgili et François Rouquet ont voulu proposer ce questionnement sous la forme d'une exposition accueillie par la BDIC Musée d'Histoire Contemporaine et, de manière inédite, par le Musée de l'Armée à l'Hôtel des Invalides. Il faut exhumer les objets qui évoquent le sentiment amoureux ou le désir, la rencontre ou la frustration sexuelle, mais aussi les affiches, les films, qui véhiculent la représentation d'un ordre sexuel conforme à la volonté des pouvoirs politiques et militaires. En miroir de cette réflexion d'historien, le général Robert Bresse, directeur du musée de l'armée, témoigne de son expérience de commandement, de l'importance de prendre en compte les pulsions et les frustrations des hommes et des femmes placés sous son autorité dans les zones de combat. Général Bresse, vous avez dirigé plusieurs régiments, notamment en ex-Yougoslavie. Quelles sont les mesures que vous avez été amené à prendre sur le moment?
Nous étions en situation d'isolement dans la poche de Bihać et les populations locales avaient suffisamment souffert pour ne pas être très portées sur la bagatelle. Et bien tout simplement, nous avons organisé des rotations permettant aux gens d'aller, comment dirais-je, respirer sur la côte dalmate. C'est-à-dire que, où il y avait des hôtels, où je pense que ces hôtels étaient des hôtels 5 étoiles, mais vides, donc on les avait à des prix très intéressants. Les gens descendaient par section, et je crois savoir qu'il y avait des masseuses ou des dames de bonne volonté qui s'occupaient un peu de nos garçons. Mais bien entendu, c'est un palliatif, et c'est une forme de la sexualité. Il ne faut pas oublier aussi qu'on aborde l'amour sous toutes ses formes, aussi bien, d'ailleurs, l'amour conjugal que l'amour libre, que l'amour homo ou hétérosexuel, parce que tout ceci est à gérer, et tout ceci se pose. Et vouloir le nier, c'est nier la nature humaine, et c'est aussi s'exposer à des catastrophes.
L'armée évoque rarement les questions de sexualité. Qu'est-ce qui vous a amené à accueillir cette exposition intitulée « Amour, guerre et sexualité » justement ?
C'est la conjonction d'une rencontre entre les travaux d'une équipe du CNRS et mon expérience personnelle. Je m'étais trouvé confronté à ce problème à plusieurs reprises sous des latitudes lointaines, c'est-à-dire en Afrique, dans le Pacifique et plus récemment et plus près de chez nous, dans l'ex-Yougoslavie.
Concrètement, comment se manifeste la sexualité en temps de guerre sur le front ?
Alors, d'abord, la sexualité se manifeste d'abord par la difficulté à la gérer. Ça, c'est le premier point. Puisque, par définition, enfin, le terme de front est peut-être un peu abusif par rapport à ce que nous avons connu, mais c'était quand même des situations qui étaient parfois paroxystiques. Et il est clair que ça imprime une tension. La peur est présente, le danger aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Ça imprime une tension sur des jeunes gens qui, en même temps, ont les exigences de leur âge, qui fait que, effectivement, c'est un problème qui se pose d'une manière permanente. Et le nier, ne pas le gérer, nous entraîne à des catastrophes que l'on connaît. Quand des troupes ne sont pas bien tenues, elles se comportent de manière ignoble sur le terrain.
Daniel Vollmann, comment est née cette idée d'élaborer cette exposition avec François Arbouquet et Fabrice Virgili ?
L'idée est née d'une équipée que nous avons organisée à l'Historial de Péronne, le très beau musée de la Première Guerre mondiale, où se tenait à ce moment-là une exposition sur les enfants pendant la Première Guerre. Et en chemin, nous nous disions que pour un historien, faire une exposition, c'est quelque chose de très intéressant. Et on avait une vague idée qu'on aimerait bien faire une exposition. Et on s'est demandé à qui on pourrait la proposer. Nous avons pensé à la BDIC et la BDIC s'est trouvée intéressée. Et non seulement intéressée, mais elle voulait beaucoup la faire en partenariat avec le musée de l'armée. Ça aurait été le premier partenariat de ces deux musées qui pourtant sont dans le même lieu depuis la création au moins du musée d'histoire contemporaine. Et ça s'est fait comme ça.
C'est vrai qu'a priori, on n'aurait pas pensé aller voir le musée de l'armée.
Fabrice Virgili.
Parce que les expositions qui ont eu lieu longtemps au musée de l'armée étaient justement une histoire très militaire de la guerre. Et que l'histoire que nous essayons de faire n'est pas une histoire qui n'est justement que militaire. On essaie de faire une histoire sociale, une histoire voire intime de la guerre. Ça change probablement, mais ça c'est peut-être plus à eux de le dire, l'image du musée de l'armée. Mais bon, nous, ça nous convient tout à fait.
Il s'agit très clairement pour nous de moderniser ce musée et en même temps de le transformer de musée d'objets en musée d'histoire. On ne peut pas non plus ne pas regarder l'histoire sans projeter un regard sur les rapports entre les sexes, parce qu'ils ont été tout le temps déterminants ou dimensionnants.
Très vite, on a commencé à faire des recherches d'objets, musée de l'érotisme, préfecture de police à l'époque. Et tout ça a commencé à prendre forme et à nous passionner de plus en plus.
Lorsqu'on est historien, Fabrice Virgili, on travaille beaucoup avec de l'imprimé, avec des livres, avec des archives, devant son ordinateur assez souvent aussi. Qu'est-ce que ça représente pour un historien comme vous, tout à coup, d'avoir cette responsabilité d'élaborer une exposition et finalement d'élargir quand même de manière très importante le public immédiat de vos travaux?
Moi, je dirais tout d'abord et très sincèrement un énorme plaisir. C'est-à-dire que c'est vrai que faire se lancer dans cette aventure, on peut dire, parce que maintenant ça dure, a été d'abord un très grand plaisir, parce que ça permet de faire le travail qu'on fait d'habitude, donc le travail d'historien, mais de le faire différemment. Quand on fait l'histoire, et encore plus probablement celle du XXe siècle, l'image aujourd'hui doit être une source. Je ne vois même pas comment on peut s'en passer finalement. Donc il y a ça, l'objet encore plus, parce que là il s'agit encore plus de... pas de se forcer, parce qu'il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, mais vraiment de se confronter à ce type de source et voir qu'est-ce que nous disent ces objets-là. Et ils nous disent plein de choses, justement du point de vue de l'intimité. Parce que avoir un petit pendentif autour du cou avec la photo d'un soldat ou d'une femme, ça a du sens quand on est au fond de la tranchée ou quand on est à l'arrière, parce qu'on en voit de toutes sortes.
Ça paraît un petit peu extraordinaire que trois historiens qui s'occupent de sexualité s'associent avec l'armée, avec le musée de l'armée, pour évoquer cette question du rapport entre la guerre et la sexualité. Comment cette association s'est déroulée ?
Je dois dire que le directeur du musée de l'armée a été tout de suite séduit par ce thème. C'est un problème pour eux. C'est un problème maintenant. Donc l'idée qu'on puisse en retracer l'histoire, ça les intéresse. Alors, ceci étant, on s'est heurté à des réticences. Et je crois que c'est au fur et à mesure, quand les gens ont vu ce qu'on voulait faire, ont vu la démonstration, ils se sont dit que c'était pas si sulfureux et qu'on pouvait le faire. À part ça, il y a beaucoup de femmes nues, il y a des phallus, il y a des couples enlacés, et c'est assez amusant de voir le musée de l'armée présenter ça, je dois le dire.
J'ai toujours eu l'habitude d'avoir du monde tout plein. Quand je suis dans la solitude, comme les Anglais, j'ai le spleen. Alors je me suis fait moi-même une famille au régiment, en donnant un nom de baptême aux objets de mon fourniment. C'est un truc que j'ai lancé, dame, il fallait y penser. Ma bouffarde, c'est Victorine, le masque à gaz, c'est Gaston. Ma gamelle, c'est Ernestine, mon flingot, c'est Cupidon. Ma cartouchière, c'est Pichenette, mon calot, c'est Baptiste. Ma capote, c'est Nénette, mon bidon, c'est Rintintin. Ainsi jamais je ne m'ennuie, pour me distraire, j'ai le choix. Grâce à toute cette compagnie, j'ai du monde autour de moi.
Oui, mais Jean-Claude va commencer par faire
les objets,
l'armoire. Et pendant que monsieur le photographe va faire l'armoire, vous sortirez les
tableaux. Et tu m'as dit que pour les dessins, on te les envoie à l'hôtel, c'est ça finalement que tu préfères?
Ouais. Ah, d'accord.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse, des commentaires des objets?
Oui, ce serait bien, oui, pour que ça me donne une indication comment photographier les objets, quoi. Qu'est-ce que vous attendez, en fait?
Bon, ça, bonjour. Alors,
je n'ai aucune idée de comment on peut photographier un truc comme ça.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un vase?
Donc ça, c'est un vase qui représente chaque fois des officiers des différentes armées alliées.
Une chope pour boire de la bière.
Le rapport avec l'amour, hein, c'est quoi?
Ben, c'est ce qui tient entre les jambes.
Quand même, c'est visible, non?
Ah, oui.
Et quelque chose d'évocateur.
Oui.
Un avion ou un obus?
Voilà,
un avion ou un obus, mais regardez le nez de l'avion. Attendez, je vais vous le mettre comme ça, ce sera plus évocateur. Quand même.
Du tabac pour Victorine, de l'eau de Javel pour Gaston, un gigot pour Ernestine, de la vaseline pour Cupidon, du chocolat pour Pichenette, du flitox pour Baptistin, de la benzine pour Nénette, du pernon pour un Tintin. T'avances toute la compagnie, te remercie de ton envoi. N'oublie pas, ma chère amie, d'ajouter quelque chose pour moi.
Lorsqu'on dirige des hommes comme cela en temps de guerre, Général Bresse, quel type d'ordre est-on amené à donner tout de suite en arrivant?
Ouais, il y en a... Moi, je me souviens, j'en ai donné trois, tout de suite, comme ça, des consignes générales, davantage que des ordres. Un, exemplarité du comportement, on vient aider des gens qui ont subi déjà ces 8 mois de guerre, c'est pas la peine d'en remettre une couche, de par notre action. La deuxième était, si vous voyez, où que vous soyez, si vous voyez se commettre un délit ou une grande saloperie, vous avez l'ordre d'intervenir. Et la troisième consigne que j'ai donnée, ben, ça a été celle-là. Gérez votre sexualité, et si vous sentez que vous ne pouvez pas la gérer, faites-le savoir avant qu'on ne soit obligé d'en prendre des mesures dramatiques, pour vous autant que pour les autres.
En temps de guerre, le public et le privé sont moins séparés qu'en temps de paix. En tout cas, l'idée est que la nation en guerre ou les nations en guerre ne s'occupent plus que de l'effort de guerre. Donc, la vie privée doit être mise en second par rapport au dévouement à la patrie. Ça, c'est le discours de mobilisation, le discours patriotique des autorités. Discours qui, d'une certaine façon, qui reste à mesurer, a été accepté par l'ensemble des populations. Sinon, la guerre n'aurait peut-être pas eu lieu, ou du moins aurait moins duré. On ne fait pas de l'histoire fiction, mais on peut imaginer ça. Donc, l'idée que la vie privée s'efface devant le dévouement à la patrie fait que la sexualité, qui est éminemment privée, devient aussi publique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, du point de vue des soldats, les autorités, à la fois civiles et militaires, encadrent la sexualité, car il faut trouver comment laisser aux combattants une plage de désir sexuel, mais contrôlée. Et ça se fait surtout par le biais de la prostitution.
Merci. On referme ? Bonjour monsieur, on prépare l'exposition.
D'accord.
On y va, je peux poser mes affaires.
Au mieux, un peu plus loin.
C'est une salle qui est vouée à quelle section de l'exposition, Daniel Bodman ?
De l'espace de la prostitution, c'est pas encore accroché, donc vous les avez par terre. Il y a quelques documents qui sont tout à fait intéressants. Aussi on a mélangé, alors on a mis une très belle photo tout à fait étonnante qui est une synagogue à Brest qui a été on voit encore les étoiles de David, qui a été réquisitionnée par les occupants allemands, c'est deuxième guerre hein, celle-là, et qui a été transformée en bordel. Alors on ne le sait pas si on ne voit que la photo, mais on le sait à cause de la légende, et on voit plusieurs soldats allemands qui entrent dans le bordel. Donc là on a à la fois la question de la réquisition des lieux en France, de la prostitution organisée par le commandement allemand et de la surhumiliation puisqu'on transforme un lieu religieux en maison close.
Donc là, plusieurs, toute une série de documents qu'on a sur la prostitution. Voilà, le péril vénérien. Pour les soldats, des cartes de visite, parce qu'il y a du côté des Allemands une volonté de contrôler la sexualité de leurs soldats pour qu'ils n'attrapent pas de maladies vénériennes. Et donc, chaque fois qu'ils allaient dans une maison close, ils devaient faire valider une fiche qu'ils devaient contrôler sur eux. Si jamais ils étaient contaminés, ça permettait aux services sanitaires de revenir à la prostituée qui les avait contaminés. Qui était interné.
Ah, le voilà, le préservatif allemand. Oui.
Qui s'appelle
Sanidor.
Sanidor, comme son nom l'indique. Ah, bien sûr, tous les préservatifs sont dans leur étui. On voit que l'étui. Parce que si on l'ouvre, après,
ça
se conserve plus. Donc.
Alors, ça, c'est beaucoup moins drôle.
François Rouquet.
Puisqu'il s'agit d'images qui sont extraites de films médico-éducatifs où on montre les effets de la syphilis et des maladies vénériennes. Alors on a le détail chancre syphilitique avec folliculité, bon, de toute la déclinaison possible des effets de la syphilis. Alors elles sont à la fois destinées aux médecins pour leur montrer donc à quoi ressemblent ces différentes type de maladie, et puis aussi aux soldats, pour leur faire peur, hein, pour leur montrer à quoi ils s'exposent dès lors que ils peuvent avoir des relations extra-conjugales. Finalement, les rapports sexuels entre hommes et femmes sont une arme redoutable, qui peuvent contaminer des dizaines de milliers de soldats, et donc mettre sur le flanc des dizaines de divisions. Ça veut dire donc qu'on doit lutter de façon impérative contre toute déviance sexuelle. L'ordre moral est quelque chose d'absolument déterminant du point de vue stratégique. C'est-à-dire que si les soldats à l'avant commencent à se rendre compte que l'arrière ne tient pas, que les valeurs morales s'effondrent, que les femmes sortent, qu'elles ont des amants, ce qui arrive, eh bien, leur motivation s'effondre en même temps. Alors, il y a ça qui est très important. Donc, l'état-major et le gouvernement sont extrêmement attentifs à ce qu'il y ait cette grande rigueur morale. Ce qui n'empêche pas, évidemment, des femmes ou des hommes de passer outre les règles de la conjugalité. Et puis, il y a toujours cette idée que l'homme est le combattant, que c'est lui qui souffre, et que derrière, on doit tenir. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'à la fin, il montre que la seule solution, c'est de fonder une famille, d'avoir des enfants, un petit chien. Et voilà, on voit là le plan final. On voit des enfants dans un square avec un petit chien, un père, une mère.
Le contrôle, c'est l'obsession des autorités, c'est l'état-major. Eh bien, il faut aussi, si on a organisé la vie sexuelle des soldats séparés des femmes, il faut aussi organiser la vie sexuelle des femmes séparées des soldats. Or, là, il y a deux poids, deux mesures. Dans la mesure où les hommes sont considérés, je répète toujours, par les autorités et par, on va dire, le discours dominant, comme ayant des besoins naturels et irrépressibles, donc il faut qu'ils les satisfassent. En revanche, les femmes, elles, n'ont pas de besoins sexuels, c'est vu comme ça, et donc on organise leur fidélité, ça veut dire on les surveille, et on réprime les écarts des épouses infidèles. De quelle manière ? Premièrement, la réprobation morale, ce qui n'est pas rien. Enfin, c'est assez efficace, ça marche assez bien. Mais ce n'est pas tout. Au début de la Première Guerre, puisque les hommes étaient mobilisés et que les femmes étaient censées ne pas avoir de travail salarié, on a les gouvernements, pas seulement en France, hein, ça s'est fait dans tous les pays selon des modalités diverses, ont accordé aux épouses de soldats une pension en tant qu'épouse de soldat. Et ce qui était très malin de la part des responsables à l'origine de ces mesures, c'est que ce n'était pas seulement les épouses légitimes. Les concubines notoires pouvaient aussi prétendre à cette pension. Et les soldats pouvaient faire suspendre la pension accordée à leurs épouses ou compagnes si elles étaient convaincues d'adultère, d'infidélité ou de conduite immorale. Donc, il y avait bien sûr la réprobation morale, mais il y avait aussi des sanctions sonnantes et trébuchantes. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. Donc toute une salle consacrée à s'aimer en temps de guerre, avec des photos, des affiches. Et là, c'est deux photos de couples de la Première Guerre. C'est deux permissionnaires, en fait.
La permission était très importante pendant la Première Guerre mondiale parce qu'elle a tardé à venir, la première permission.
Elle est arrivée après 9 mois de guerre, ce qui est quand même beaucoup, parce que ça veut dire 9 mois de séparation, avec peu de nouvelles, la correspondance, oui, mais ça n'arrivait pas toujours. Et c'est permis. La Première Guerre a surpris tout le monde, comme on le sait, par sa longueur, et les états-majors n'avaient pas prévu de permission, parce que pour eux, la guerre, ça allait durer quelques mois, donc on ne fait pas de permission. Et c'est sous la pression de la société civile qu'il a fallu organiser des permissions. Sinon, ça n'aurait pas tenu.
Smith est philosophe. Il a quitté son champ pour les Philippines. Il a échangé son tracteur agricole contre un bulldozer. Une permission pour toi, boy ? Ok. Smith est content, il débraye immédiatement au propre et au figuré. Et parfois, il est en ligne quand lui parvient sa permission. Smith ne s'étonne pas davantage, il sourit encore et prend connaissance tranquillement du précieux document.
Général Bress, aujourd'hui on a des moyens de communication très rapides comme Internet, comme parfois un SMS sur un téléphone portable. Est-ce que ça fait évoluer aussi la relation de couple lorsqu'un soldat est au front pour communiquer avec sa famille?
Oui, c'est très important. D'ailleurs on organisait des rotations parce que c'était tout ne passait pas, donc il fallait amener les gens sur des positions pour pouvoir... Comme c'était un peu compliqué, on a finalement mis en place une antenne satellite et il y avait des petits temps. C'est très important, en particulier la famille, parce qu'il y a aussi l'amour filial, l'amour fraternel, bien entendu. C'est parfois extrêmement contre-productif, parce que lorsque les coups de téléphone tombent systématiquement dans le vide, ça déclenche parfois des interrogations, justifiées ou non, parce que vous savez, on devient facilement paranoïaque quand on est sous la pression. Dans un ou deux cas, malheureusement, ça s'est vérifié parce que quand le gars est rentré, il a trouvé le nid vide. Mais bon, la plupart du temps, ça suscitait l'absence de communication, une détresse encore plus grande que finalement l'absence de courrier. On voit l'importance que reprend le courrier, là aussi, ça, c'est extraordinaire. Ça a été moins flagrant, d'ailleurs, pour nous, dans les Balkans, où ça fonctionnait très bien. On avait une antenne de la poste aux armées adaptée au bataillon, donc ça se passait très très bien. Qu'en Nouvelle-Calédonie, quand on était sur la côte d'Est, où on est resté pendant plusieurs mois sans grande nouvelle, et plusieurs mois, j'exagère, un mois et demi à peu près. Et là, vraiment, c'était un bataillon parachutiste, les gars commençaient à être tendus. Alors les plus calmes parlaient uniquement de fusiller le vagmestre en rentrant, et les plus agités commençaient vraiment à mal se comporter.
Exotisme, mystère, on se souviendra de ce pont rudimentaire et de ce petit animal confiant. Premier souvenir. Allons, Smith n'a vraiment pas lieu de regretter son séjour à Manille. Deuxième cadeau. Le troisième sera l'Alliance. Elle a répondu « Yes ». Partons vite à la recherche du pasteur.
Vous-même, vous écriviez lorsque vous partiez en opération extérieure?
Moi qui suis un grand paresseux pour écrire, c'est à peu près la seule fois où j'écris régulièrement parce que je sais que c'est important. Mais alors je vous rassure, je racontais moi toujours de gros mensonges. Vous savez, il y a deux types de lettres. Les gens qui essayent de banaliser ce qu'ils font de manière à rassurer les familles. Et vous avez d'autres qui dramatisent ce qu'ils font, ce qui fait qu'ils suscitent encore une inquiétude encore plus grande chez les familles. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, vous savez, il y a déjà la télévision pour leur montrer les images du théâtre où on est. Donc, et le coup de « ma chérie, je t'écris à la lueur des balles traçantes », on le traitait en matière de plaisanterie, mais un certain nombre de gens l'ont fait, parfois parce qu'ils avaient été volontaires pour partir, mais ils culpabilisaient un peu, donc ils essayaient de dire que, bon, c'était dramatique pour eux, quoi. C'était une manière de se dédouaner, d'être parti, et de laisser parfois l'épouse avec les deux gosses à gérer la base arrière.
Que des petits cœurs, il y en a plein que je n'avais pas encore vus. La plupart viennent de la Vast, de Berlin. Je suis à de Caen et l'autre, il vient du musée de l'armée.
Donc c'est des petits bijoux en fait.
Ouais, voilà, des petits cœurs avec des petites pierres ou brodés. Celui-là, il est brodé. Celui-là, il est, je sais pas quoi, nacré, non? Ouais. Je suis pas bijoutier. Hein. Je suis juste historien.
Il y a quelques cœurs de la Première Guerre qui ont été faits par les soldats. Ce qu'on appelle l'artisanat du front, celui-là, et quelques-uns ont été trouvés, viennent de Berlin, de l'institution qu'on appelle la Vast, par exemple celui-là, et qui ont, la Vast est une institution qui est chargée de retrouver les disparus de la Deuxième Guerre, et en ouvrant les tombes, soit des charniers, soit des tombes avec des... pensionnaire entre guillemets non identifié, on a trouvé beaucoup d'objets avec ces corps, dont tous ces cœurs. Donc il y a quelques cœurs qui viennent de tombes de soldats allemands non identifiés, qui ont pour certains été identifiés avec ces objets-là, après. Il y a des cœurs de la Première Guerre, des cœurs de la Seconde. Le plus grand, qui fait 12 ou 15 centimètres, c'est un cœur qui a été brodé par un soldat britannique du Royal Fusiliers, c'est écrit dessus, qui a donc brodé et mis des perles, avec, on voit le drapeau britannique, et il s'était destiné à sa bien-aimée, fiancée ou épouse.
Avec un petit message, « Forget me not ».
Que je n'avais pas vu. À force, on a tellement vu les objets qu'on a merci. Voilà.
C'est bien leur, comme ils l'ont, le dispositif, non ?
Oui. Vous les voyez différemment, les objets, maintenant qu'ils sont mis en place ?
Eh ben ça, pour rien vous cacher. Enfin, les cœurs qui viennent de Berlin, je les avais vus dans une boîte en tas. Parce que le service des disparus de la Wehrmacht, c'est pas un musée. Donc ils ne conservent pas dans les conditions de muséographie. Il y a une pièce où il y a plein d'objets qu'ils ont trouvés dans les sépultures de soldats allemands. Donc les cœurs, je les avais vus en tas. Donc c'est sûr que là, ça prend une autre dimension, mis en valeur comme ça. Oui. Au cœur.
Ça reste le message quand même, le message de l'amour par excellence. Hein. On voit que c'est des petits objets qui sont fabriqués par les soldats.
Une violence aussi là, de l'autre côté. Hop. Pas mal, hein? Salut Gaëlle. Donc ça, c'est la partie probablement la plus dure de l'expo sur les violences sexuelles. Il y a quelques documents, quelques objets.
Et là, on a un album photo un peu particulier que vous avez choisi de garder légèrement dissimulé par un papier cristal, oui. Fabrice Virgili.
En fait, c'est le catalogue d'une exposition qui a lieu en juillet 1945 à Paris, au Grand Palais, qui est une exposition intitulée « Les crimes hitlériens ». Et sont exposées une série de photographies prises par des soldats allemands, trouvées sur un soldat allemand, c'est ce qui est indiqué dessus, et qui sont des photographies d'un viol. Donc, on veut traiter la question des violences sexuelles, parce qu'on pense qu'on ne peut pas traiter ce sujet sans aborder les violences sexuelles, évidemment. Mais c'est vrai que là, c'est des images particulièrement dures. Donc on a laissé le calque qui était prévu à l'origine, qui fait partie du catalogue, et qui atténue la violence de l'image.
Parce que c'est franchement absolument horrible. Alors on ne le voit pas beaucoup.
Et puis cet objet très 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 bizarre, en fait, c'est une petite porcelaine où on voit un soldat allemand casque à pointe, donc stéréotype du soldat allemand de la Première Guerre mondiale, agenouillé, les mains ficelées dans le dos et les fesses à l'air. Et en fait, les fesses sont en tissu et c'est juste un plante-aiguille pour couturière. On a toujours besoin d'aiguilles quand on fait de la couture et ses travaux à la maison. Et donc, voilà, on voit à quel point l'imaginaire de la violence, et là, de la violence sexuelle, parce que c'est bien les fesses qui sont à l'air, peut être comme ça réinvesti dans des objets destiné à la vie quotidienne. Ensuite, savoir s'il y avait effectivement des couturières qui les utilisaient, c'est autre chose. Mais enfin, en tout cas, l'objet a été pensé, c'est déjà ça.
On n'imagine pas qu'il y ait pu y avoir des choses comme ça. Donc c'est ce genre d'objet qu'on a voulu mettre en lumière pour montrer que la violence sexuelle était là de façon diffuse et qu'il n'y a pas seulement des viols, c'est vraiment une ambiance. Comme disent les historiens de la Première Guerre, c'est une culture de guerre qui imprègne toute la société. Et en cherchant les objets, on s'est aperçu que c'était encore bien plus présent que ce qu'on aurait pu croire. C'était ça pour nous l'intérêt de faire cette exposition.
C'est assez curieux, on ne voit pas de scènes de tonte.
En fait, il y en a beaucoup plus que ce que je pensais. Parce qu'on a, premièrement, une partition, une chanson qui s'appelait « Qui tonton ?» pour le faire. Donc, et on voit un Américain noir, ce qui n'est pas anodin, qui tond donc à un balcon une femme avec la foule qui se réjouit sous le balcon.
J'essaie d'attraper les cheveux qui tombent du balcon.
C'est absolument horrible. Donc quand on voit des choses comme ça, on imagine qu'on ne veut pas les multiplier, mais il fallait les mettre. Et ensuite, on a un document très intéressant qui est ici.
C'est un ensemble de photos. Pour le moment, elles sont posées par terre, elles attendent d'être accrochées sur le mur. Qu'est-ce qu'elles représentent exactement ?
Alors, ça représente une sorte de scénario photographique de ce qui doit être le châtiment des femmes à la libération au Danemark. En gros, c'est une mise en scène, une sorte de petit roman photo qui raconte comment on doit punir les femmes, le plus souvent qui se sont commises avec des Allemands.
C'est une série de photos qui a été prise en 1943 et qui est faite avec des acteurs, c'est pas du vrai, et qui a été utilisée comme propagande par le Parti communiste danois pour montrer le châtiment qu'on ferait subir aux collaboratrices après la victoire. Mais ce qui est important, c'est que c'est du faux, c'est une reconstitution plus vraie que nature.
Alors on voit dans la première photographie les trois civils qui suivent une femme dans la nuit. On les voit ensuite l'attraper, la dénuder à moitié sur un banc. On ne sait pas trop s'ils la violent ou pas. Et puis on la voit ensuite couverte d'une croix gammée, peinte sur son dos, alors qu'elle est absolument nue. Et ce sont des images assez tragiques parce qu'elles interdisent de penser que ces scènes d'exaction ont été le pur produit d'une improvisation collective. D'abord, on les retrouve partout. Et puis, visiblement, on sait que notamment le Parti communiste avait donné des instructions pour punir les femmes, entre autres. Hein, mais on voit bien que les choses étaient, si ce n'est prévu, du moins envisagé.
Ein Mann, der Ihnen Ihre Dienste mit Schokolade und Seidenstrümpfen.
And as soon as your husband.
Ich habe ihn lieb gehabt.
Oh, well. You seem to have a big heart.
Sie scheinen ein großes Herz zu haben.
Didn't you also just say the same thing about feelings for your husband?
Nein.
No?
Sie brauchen gar nicht nachzusehen. Sie würden den Unterschied sowieso nicht verstehen. Den Bill habe ich lieb gehabt. Und ich liebe meinen Mann.
Daniel von Mann, vous abordez dans cette exposition des choses un petit peu connues, comme effectivement les bordels de campagne, la réprobation morale des femmes infidèles à l'arrière du front. Il y a aussi des choses qu'on a un petit peu moins l'habitude de voir, c'est-à-dire l'homosexualité et les violences de guerre aussi, qui ont du mal quand même à être abordées, du moins du point de vue de l'image encore.
Alors, pour ce qui est de l'homosexualité, à dire vrai, on a été surpris de trouver tant de documents qui montrent l'homosexualité dite ou pas dite. Mais on a, par exemple, on est tombé en arrêt devant une photo qui se trouvait au mémorial du général Leclerc, donc le musée qui se trouve à Montparnasse, une photo qui a été prise en août 44 au moment de la libération de Paris, où ce sont deux Français, peut-être des FFI, qui se sont habillés avec des uniformes allemands qu'ils ont dû prendre sur des soldats allemands qu'ils ont tués ou qu'ils ont fait prisonnier, ça on ne sait pas, et ils s'embrassent tendrement. Quand on a vu ça, on s'est dit, quand même, c'est pas nous qui inventons. Enfin, plusieurs représentations de soldats entre eux, avec des gestes qui ne sont même pas équivoques, qui sont des gestes de tendresse ou d'amour ou des gestes sexuels. Moi, personnellement, je ne pensais pas en trouver autant.
Les marins, parce qu'évidemment, les ports sont toujours des lieux de trafic, et c'est le lieu aussi où il y a des maisons closes. Les marins rentrent de mois de campagne, et donc ils ont envie de rencontrer des femmes ou des hommes. Et les marins, souvent pour arrondir leur fin de mois, quand ils sont homosexuels, eh bien, ma foi, se prostituent dans les ports. Alors ça, c'est une chose. Cette prostitution qui est souvent prêtée aux marins pour des raisons évidentes, parce qu'il y a confinement, parce qu'il y a promiscuité, et parce que dans les bateaux, ma foi, c'est vrai qu'on peut aussi penser que certains peuvent se laisser aller à des pulsions, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas en temps normal. Ce qui est important, c'est de voir que dans l'ordre militaire de la marine, de la marine nationale, cette possibilité est extrêmement combattue, là encore parce qu'elle est très dangereuse. Si l'amour ou la sexualité commence à pointer le bout de son nez dans l'ordre hiérarchique militaire, c'est l'ordre lui-même qui s'effondre. Si le mousse commence à tomber amoureux du capitaine, l'ordre s'effondre totalement. Donc, il y a un vrai danger. Alors, ce qui ne veut pas dire que ça ne se produise pas. Mais tout cela doit évidemment rester tout à fait secret. Cette prostitution, donc, qui est prêtée parfois à certains marins, qui gagnent aussi un peu d'argent de cette manière-là, elle est souvent reliée à l'espionnage. Parce que celui qui va être déviant dans sa sexualité et dans l'ordre moral, pouvant l'être dans l'ordre patriotique, est sans doute un communiste. C'est ce qui va se passer après, plus tard, hein, dans les années 30, est sans doute un communiste, parce que là aussi, les ports sont des lieux de brassage, etc. On est à chaque fois confronté, à travers ces relations amoureuses, ces relations sexuelles, à des enjeux qui sont directement liés à l'État, à la sécurité de l'État, aux enjeux militaires.
Général Bress, est-ce que vous avez vu parfois se créer des liens d'affection qui allaient jusqu'au lien d'amour entre certains de vos soldats ?
Certainement. D'une manière statistique, il y a certainement eu ce genre de comportement dans mon bataillon. Mais je ne peux pas dire que ça ait produit un quelconque scandale ou que ça ait transparu dans la manière, au moins, de fonctionner. Si vous voulez, je sais bien que les Thébains avaient un bataillon sacré où les amants s'enchaînaient entre eux pour mourir ensemble. Nous n'en étions pas à ce stade, loin s'en faut. D'autant plus que je crois que les comportements sexuels sont affirmés quand même à 20 ans pour la plupart des gens. Et donc je crois qu'il y avait certainement des hommes qui préféraient les hommes parmi les membres du bataillon. Probablement, et pas seulement parmi les soldats d'ailleurs, sans doute. Mais je dois dire que ça s'est géré alors là d'une manière très lisse. En revanche, la sexualité des hétérosexuels, c'est celle qui me préoccupait le plus, parce que là, il fallait organiser quelque chose. C'était en fait les envoyer dans un endroit où il n'y avait pas la pression et la possibilité, comment dirais-je, d'épancher un trop-plein d'affection.
Le premier jour, je fus séduit par tes fines attaches. C'était sur le marché, au milieu d'un troupeau de vaches. Moi, c'est bien par hasard que sur le marché, j'étais venu pour acheter des cochons, mais c'est toi que j'ai voulu. Brûlant de fièvre, j'ai pris tes lèvres et j'ai chanté, pensant soudain aux magazines américains. Tu es ma pin-up girl la plus belle. Et moi je suis ton petit boy pin-up, je te chanterai des ritournelles, mieux que ne le ferait un pick-up.
Il y a un film qui est extraordinaire, moi, qui me fait toujours rire, pourtant je l'ai vu de très nombreuses fois, vous avez dû le voir aussi, c'est I Was a Mayor Bride, avec Cary Grant et Anne Sheridan, un film de Hawks qui montre donc ces relations entre Anne Sheridan, qui est une, je crois qu'elle est lieutenant, dans l'armée américaine, et qui doit accompagner un Français qui est joué par Cary Grant, Français donc, avec à la réputation forcément sulfureuse, et qui ne manque pas d'ailleurs, évidemment, de lui faire la cour, ce à quoi elle résiste très fermement. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que les rôles sont inversés, c'est-à-dire que lui ne sait pas conduire, c'est elle qui prend les initiatives, c'est elle donc qui conduit la moto, il est dans le sidecar. C'est elle qui trouve des solutions quand ils sont dans des situations périlleuses, et évidemment il y en a plusieurs. Enfin bref, les choses sont inversées. Et le titre du film, I Was a Mayor Bride, donc j'étais un marié mâle, marié homme de guerre, est intéressant parce qu'il joue beaucoup sur cette inversion, puisque normalement une Mayor Bride, c'était quelqu'un qui, une femme qui était rencontrée par un soldat américain et qui obtenait un statut donc de mariée de guerre qui lui permettait de retourner aux États-Unis avec son mari. Mais dans le cas de I Was a Mayor Bride, évidemment, rien n'est prévu pour qu'un marié homme accompagne sa femme aux États-Unis.
I think I was stunned momentarily.
Well, maybe you were, but you looked like you were going to kiss me when you saw me.
I what?
I wish you had. I've never been kissed by a Frenchman.
Well, isn't it? What's so strange about that?
Oh, you know what people say. That...
Oh, that's nonsense.
Well, all right, go ahead.
Hmm. Well, are you ready?
Sure.
There,
oh,
you see?
That was no good. That wasn't the least bit different.
Donc, ça finit par un grand baiser et avec un plan de coupe, et on les voit après devant le major les dire, nous voulons nous marier. Et c'est là que commence la deuxième partie du film où il va falloir trouver des solutions, à la fois pour, pendant les jours qui restent, loger Cary Grant, qui peut pas, qui n'a évidemment pas le droit d'aller dans les endroits réservés aux mariés de guerre. Donc c'est pour ça que le film s'appelle en français « Aller coucher ailleurs », c'est qu'il ne sait pas où dormir. Et il n'est évidemment pas question qu'il dorme avec sa fiancée, puisqu'ils ne sont pas encore mariés. Et pour finir, elle va devoir le travestir en femme pour embarquer sur le bateau. Alors elle lui fait une perruque avec des crins de cheval, ce qui est très drôle. Elle lui met l'habille en femme, il se fait siffler par des marins qui passent, il est en train de remettre ses bas, enfin bon.
Are you comfortable?
Yes.
C'est votre premier voyage sur ces engins?
Oui, j'ai jamais fait de voyage là-dedans. J'étais sur un porte-avions durant la guerre. Quand on a été coulé, je l'ai su car il y avait des incendies partout, des explosions. J'ai reçu l'ordre de monter et de sauter en vitesse. J'ai été brûlé et ensuite je me suis réveillé sur un croiseur. J'avais les deux mains enlevées. Après, ça a été tout seul.
Tout seul?
C'est l'impression que j'ai eue. Ils ont été gentils avec moi. Et ils m'ont mis ces deux trucs-là. Je peux faire un numéro de téléphone et j'arrive même à conduire. Et aussi à mettre des sous dans un piano mécanique. Tout marcherait, mais c'est que je suis fiancé.
Et elle sait ce qui vous est arrivé?
Oui, ils le savent tous. Mais ils ignorent de quoi ces trucs-là ont l'air. Vilma est encore une gosse. Elle n'a jamais vu des crochets de ce genre.
Et on arrive à la dernière salle. La guerre est finie. L'avant-dernière salle. Donc là, on a mis des scènes montrant à la fois la joie des populations au moment de la fin de la guerre et aussi toutes ces questions de retrouvailles difficiles, la sexualité des invalides, ces gens qui se retrouvent diminués. On a un Kudjat qui a l'air très content, il se marie, qui est un Américain.
Garçon.
Mon fils! Oh, que je suis contente!
Voilà, Vilma!
Des hommes qui reviennent avec complètement défigurés, ce qu'on appelle les gueules cassées, que leurs femmes ne reconnaissent pas. Bon, vous imaginez les retrouvailles. Et puis, en plus, ce sont des gens qui sont diminués, donc qui toucheront une pension. Mais bon, une pension, c'est malgré tout pas très digne dans la vie d'un homme qui s'est battu. Et puis avec, en plus, ce souci, souvent, de se rendre compte que, bah, au fond, la guerre, ça sert pas à grand-chose, d'un point de vue moral. Bon, qu'il y en a beaucoup, ou plusieurs dans le même village, qui ont réussi à passer à travers, qu'il y en a qui sont blessés, qu'en étant blessés, ils sont diminués, que très vite, ce sont des gens qui sont un peu méprisés, au fond, parce qu'ils font peur, d'abord, parce qu'ils ne servent plus à grand-chose. Bon. Il y a aussi cette idée de s'être fait avoir, au fond.
Les docteurs sont très forts. Ils ont tiré ce garçon d'affaires avec ses crochets.
Ils auraient dû lui enseigner à prendre sa fiancée dans ses bras et à caresser ses cheveux.
Je ne sais pas, on connaît un commissaire. On va voir. Ben parce que c'est nous qui parlons.
Je n'ai même pas pu enchaîner tout à l'heure.
Daniel fait le premier groupe. Devant. Je vais faire un deuxième et puis tu fais le deuxième. Comment on fait concrètement?
Concrètement.
Il y en a un qui parle, l'autre attend 20 mètres,
oui.
Et il démarre,
oui.
Tu crois?
Oui.
D'accord.
Je crois que c'est bien.
Alors, tu as l'honneur.
C'est à moi l'honneur.
Donc, moi je vais attendre un peu. Vous allez bien me suivre ensuite, monsieur François Rouquet, mais là il y a un petit bouchon. Allez, il faut qu'elle avance, Daniel. Alors, deuxième groupe. L'idée que nous avions, c'est de montrer dès le début de la guerre que la question de la sexualité et de la guerre sont intimement liées. Et on le voit déjà très bien à travers la mobilisation et la manière dont les corps des hommes et des femmes sont utilisés pour la mobilisation. Ici, des images de femmes ou d'hommes, mais évidemment mis dans des postures très avantageuses, des hommes très musclés, très virils, des femmes aux images souvent érotisées, qui sont utilisées donc, quels que soient les pays, et dans les deux guerres mondiales, pour amener l'ensemble des populations à participer à l'effort de guerre. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas se tromper, l'effort principal, c'est de vaincre, et de vaincre l'ennemi. De temps en temps, on a souhaité ponctuer l'exposition, le parcours, par des petits sous-thèmes transversaux. Ici, très modeste, mais très évocateur, l'abri, avec toute une production autour de l'abri. L'abri, c'est la peur, bien sûr, la peur du bombardement, de la destruction, mais c'est aussi l'obscurité, la promiscuité. Et ça développe des imaginaires. On a des chansons autour de l'abri et qu'est-ce qui se passe dans l'abri, les éventuels genoux qui s'effleurent, qui se touchent. Là, sur le ton humoristique, une carte d'abri qui dit surtout qu'il ne faut pas caresser le genou de sa voisine quand on est dans l'abri et qu'il y a l'obscurité. Donc toujours ce jeu sur la mort et l'amour, hein, le danger, mais en même temps la nécessité de continuer à vivre, à alimenter un peu cette pulsion de vivre. Nous avons aussi à chaque fois essayé de mettre en vis-à-vis les hommes et les femmes, évidemment. Ça peut paraître aller de soi, mais par rapport aux fantasmes, justement, les fantasmes masculins sont bien plus souvent décrits et dits que ceux féminins. Donc parfois, on arrive néanmoins à mettre en parallèle, comme ces deux documents qui se renvoient parfaitement. Vous avez un poilu qui vient de sculpter une victoire en bois, et en face, une jeune femme très dénudée qui a, elle, son petit poilu en bois au bout de la main.
J'aurais dû penser à un verre d'eau. Pardon.
Laissons Fabrice Virgili en ce jour de vernissage tant attendu.
On vous laisse la place.
Merci.
Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Casablanca de Michael Curtis, Aller coucher dehors de Howard Hawks, Le mariage de Maria Brown de Fassbinder et Les plus belles années de notre vie de Wyler.
Donc on va procéder par contournement. Messieurs, mesdames du premier groupe.
Merci au commissaire de l'exposition, Daniel Von Mann, François Rouquet et Fabrice Virgili, ainsi qu'au général Robert Bresse. Merci également à Emmanuel Renvoisy, Céline Gauthier, Irène Paillard et Sonia Combe. Prise de son, Pascal Dupont. Mixage, Claire Levasseur.
Merci. Merci Daniel.
Amour, guerre et sexualité. Un documentaire proposé par Anaïs Quien et réalisé par Charlotte Roux.
Je pense qu'on peut aller, on peut aller voir. Parce qu'après, il n'y aura plus rien.
Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vona Bolivier et Jean-René Bonisson. Les Archivina ont été choisis par Olivier Tosseri. Le site internet est tenu par Antoine Lachant. La réalisation était signée aujourd'hui Charlotte Roux. Si vous voulez réagir à cette émission ou à toutes les autres, 01 56 40 25 78, 01 56 40 25 78, pièce 61 23 à la Maison de Radio France, 75 220 Paris Sélex 16, 61 23 à la Maison de Radio France, ou encore sur le site internet www.franceculture.com, rubrique Les émissions, La Fabrique de l'Histoire.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 octobre 2007.